Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Hodiot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines. Ce jour-là, certes, oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bien, chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi soir, 11 janvier 2021. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal, suivi d'un commentaire politique, et nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. Les modalités de l'application de la loi sur l'action stratégique visant à endiguer les sanctions et protéger les droits de la nation iranienne ont été examinées. En Syrie, les habitants du quartier de Halko ont observé dimanche un sit-in de protestation contre les pratiques oppressives des FTS. Et l'Union africaine a annoncé l'échec du plus récent cycle de pourparlers tripartites organisés entre le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie au sujet du grand barrage de la Renaissance en Éthiopie. C'était les titres, en voici le journal. Le porte-parole de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, Aboulfazl Amouhi, s'exprimant lors d'une interview accordée à l'agence de presse Fars, a brossé un tableau détaillé sur la toute récente session de la Commission parlementaire tenue dimanche après-midi. Lors de ce rendez-vous, les modalités de l'application d'une loi nouvellement adoptée au Parlement en faveur d'une action stratégique visant à endiguer les sanctions et protéger les droits de la nation ont été examinées. Étaient également présents à la réunion les représentants de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique et du ministère des Affaires étrangères. Intervenant à la réunion, le porte-parole de l'OIEA, Behrouz Kamalvandi, a présenté un rapport sur la manière de mettre en œuvre les points prévus par le projet. Citant Behrouz Kamalvandi, le porte-parole de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement a déclaré « Un enrichissement à 20% a été mis en œuvre conformément à l'article 1 de la loi et a également été notifié à l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. L'Organisation de l'énergie atomique est en train de concevoir un réacteur similaire au réacteur à eau lourde d'Arak avant la rénovation de ce dernier, a-t-il poursuivi. Dans leurs remarques, les membres de la Commission ont pour leur part salué les efforts du gouvernement, y compris le IOA, pour la mise en œuvre de la loi. Ils ont insisté sur la poursuite de la coopération entre le gouvernement et le Parlement dans l'application de la loi anti-sanctions. Le drone Karayel de fabrication turque compte désormais parmi les drones de la coalition d'agression saoudienne qui ont été abattus par les combattants yéménites. La semaine dernière, le général de brigade Yahya Sali, porte-parole des forces armées yéménites, a fait part de la destruction d'un drone de reconnaissance de l'armée saoudienne lorsqu'il survolait la province d'Al-Jawf. Le drone de reconnaissance Karayel est une fabrication de la compagnie turque Vestel. Pendant ces dernières années, l'armée saoudienne a acheté 46 drones Karayel. Il s'agit du deuxième drone de ce type qu'a abattu la défense anti-aérienne d'Ansar Allah. Le 30 décembre 2019, le premier Karayel a été abattu par un missile Fateran lorsqu'il volait dans le ciel du port de Daïda. Avant la destruction de ce drone, personne ne savait que l'armée saoudienne achetait des équipements militaires à la Turquie. des combattants yéménites qui disposent eux-mêmes d'une vaste gamme de drones d'assaut et de reconnaissance n'ont jamais permis depuis le début de la guerre en 2015 à l'Arabie saoudite de prendre contrôle du ciel du Yémen et ont jusqu'ici abattu plusieurs drones ennemis. Parmi tous les drones abattus par les Yéménites sont marqués les drones sophistiqués américains, dont la destruction était un remarquable succès pour la DSA du Yémen. Depuis 2016, où les États-Unis ont fourni certains de leurs drones à la coalition d'agression saoudienne, la DSA d'Ansar Allah a abattu 6 drones américains, dont 4 MQ-9 Reaper et 2 MQ-1 Predator. La DSA yéménite a également détruit 3 drones de fabrication chinoise de type Winglong, dont 2 appartenaient aux Émirats arabes unis et 1 à l'Arabie saoudite, ainsi que 6 drones CH-4, tous appartenant à l'Arabie saoudite. En Syrie, les habitants du quartier de Al-Kouara Michli ont observé dimanche 10 janvier un sit-in de protestation contre les pratiques oppressives des FTS qui ont assiégé les quartiers et empêché aux habitants l'accès à la nourriture. Les FTS ont assiégé les 2 quartiers de Taï et de Al-Kouara Michli depuis une semaine et empêché l'accès à la nourriture dans le but de faire pression sur les habitants pour qu'ils obtempèrent aux pratiques criminelles de cette milice. Les manifestants ont rejeté à nouveau la présence de l'occupation turque qui avait attaqué avec ses mercenaires terroristes les maisons sûres visant l'infrastructure et les services, notamment les stations de l'eau et les centrales de l'électricité. Les participants au sit-in ont dénoncé les pratiques des FTS contre les habitants des 2 quartiers, affirmant que le peuple syrien est un seul peuple et rejettent la présence des forces d'occupation qui travaillent pour semer la partition entre les fils du peuple, en particulier l'ennemi américain qui vole et pille les biens syriens. Sachez également qu'un certain nombre des FTS ont été tués ou blessés par des attaques sporadiques contre leurs QG et leurs déplacements menés par des personnes non identifiées dans la zone de Ayed, à l'ouest de la ville de Tabara, dans la banlieue ouest de Raqqa. Un engin explosif planté par des personnes non identifiées à bord d'une voiture militaire appartenant au FTS avait en effet explosé au carrefour de la ferme Kabche au nord-ouest de Raqqa, ce qui a fait des blessés dans les rangs des FTS, tandis qu'un homme armé avait été blessé par un engin explosif dans les environs de la ville d'Ain Issa au nord de Raqqa, a annoncé l'agence presse officielle syrienne Sana. Ouvrons la page de l'actualité africaine. L'Union africaine a annoncé dimanche 10 janvier l'échec du plus récent cycle de pourparlers tripartites organisés entre le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie au sujet du grand barrage de la Renaissance en Éthiopie, a rapporté l'agence presse officielle Suna. Naledi Pandor, ministre des Relations internationales et de la coopération d'Afrique du Sud, un pays qui préside actuellement l'Union africaine, a exprimé ses regrets face à l'impasse dans laquelle les pourparlers s'étaient embourbés, a indiqué Suna. Le ministre soudanais de l'Irrigation et des Ressources en eau, Yassir Abbas, a quant à lui déclaré que le Soudan ne pouvait pas continuer à négocier sans accord. Un peu plus tôt dans la journée, une réunion à 6 des ministres des Affaires étrangères et des ministres de l'Irrigation d'Égypte, du Soudan et d'Éthiopie a été convoquée sous la présidence de l'Afrique du Sud et elle visait à discuter de leurs divergences relatives au GERD, Grand Barrage de la Renaissance, dans l'espoir de parvenir à un accord contraignant sur les règles de remplissage et de fonctionnement du barrage. Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie négocient sous l'égide de l'Union africaine sur des questions techniques et juridiques liées au remplissage et au fonctionnement du GERD. Et le premier ministre du Burkina Faso, Christophe Joseph Marie Dabiré, a formé dimanche un gouvernement de 33 ministres avec l'entrée de l'ancien chef de file de l'opposition, Zéphirine Diabré, comme ministre en charge de la réconciliation nationale, selon un décret lu à la télévision publique par le secrétaire général du gouvernement, Stéphane Sanou. Zéphirine Diabaré, chef de file de l'opposition lors du premier mandat du président Roch Marc-Christian Kabore, occupe dans ce gouvernement le rang de ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. La grande majorité des ministres de l'ancien gouvernement ont conservé leur poste, à l'instar de ministre à la Défense, celui aux Affaires étrangères, celui à l'Éducation et celui au Commerce. Le ministre de l'Énergie a été fusionné avec le département des Mines et confié à l'ancien ministre de l'Énergie. On note de nouveaux entrants comme le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, la ministre de la Justice et le ministre de l'Urbanisme de l'Habitat. Sur les 33 membres du gouvernement, on compte 7 ministres délégués et un ministre auprès de la présidence. Le secrétaire général du gouvernement est Stéphane Sanou. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Une inattendue émergence de la résistance maghrébine retarde-t-elle la normalisation avec Israël? En juger les accusations parfaitement à Hassan du sioniste Gold, il veut bien croire que le coup USA-Israël au Maghreb a quelque peu raté son objectif. À Alger, l'Américain et Kanish de l'AIPAC affirmé jeudi que l'Amérique soutenait le plan d'autonomie du Sahara occidental pour changer quelques heures plus tard à Rabat son fusil d'épaule et dire que la reconnaissance de la souveraineté américaine sur le Sahara par Trump est irréversible. Pourquoi tant de cacophonie? Certains analystes diraient qu'au train où vont les événements à Washington, la cacophonie est le moindre des symptômes qui frapperait la diplomatie US, mais il semblerait que la raison est encore largement plus profonde. En résumé, l'argument d'une normalisation avec Israël en échange du Sahara occidental et ce au prix d'une guerre contre la population, le Front Polisario, voire l'Algérie, n'a pas été suivi par les Marocains. Signe de l'échec, le roi Mohammed VI, visiblement poussé à vendre son âme aussi gratuitement au diable, rechigne à ouvrir une quelconque ambassade sioniste au Maroc, même si des informations font état de l'arrivée des délégations de militaires sionistes au pays et leur installation dans des bases près des frontières algériennes. Mais pour une guerre comme celle qui a ruiné pendant 10 ans la Syrie ou celle qui ruine encore la Libye, un roi seul largué par son peuple n'en suffit guère. Eisenkat, Peretz, Ashkenazi auraient été peut-être un jour marocains, mais l'armée marocaine, elle, ne se sentirait jamais israélienne. D'où cette nouvelle carte que l'entité s'apprête à jouer et qui se concentre encore une fois sur l'Iran, le Hezbollah et la chiitophobie. On se rappelle fort bien comment le Mossad, via des documents inventés, a poussé Rabat à rompre ses relations avec l'Iran pour cause du supposé trafic de missiles iraniens via l'ambassade iranienne à Alger au Front Polisario. On se rappelle aussi que dans ce paquet d'accusations saugrenues, ce même Mossad avait fait dire aux autorités de Rabat qu'il y aurait des formateurs du Hezbollah au Sahara à former les Sahraouis pour des opérations militaires anti-marocaines. À l'époque, aucune autorité marocaine ne s'était pas donné la peine de se poser la question suivante. Occupé à aider la Syrie, pourquoi le CGRI ou le Hezbollah devraient s'intéresser soudain au Sahara? Ou ce qui revient au même, l'armée algérienne ne pourrait-elle pas elle-même armer et former les combattants sahraouis? Le poids de Riyad étant énorme à Rabat, le royaume chérifien a décidé du divorce. Quelques années plus tard, et alors même que les Marocains, amis de la Palestine, ne savent toujours pas pourquoi un chiite sera pire qu'un sioniste, un responsable israélien revient à la charge et prétend que l'influence inéluctable de la République islamique d'Iran en Afrique du Nord a poussé les responsables de la Maison-Blanche à reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Il s'agit d'anciens représentants israéliens auprès des Nations Unies, Dor Gold, connu déjà pour ses filtres avec les Saoudiens et qui sort soudain des limbes pour débloquer la situation. Car visiblement, la normalisation a du plomb dans l'aile.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue donc dans ce nouveau volet du débat où nous allons parler du Mali et des événements qui se sont produits ces deux dernières semaines. Le tribut donc est particulièrement lourd en ce début d'année pour Barkhane. Tout d'abord, donc, 6 soldats de la force Barkhane ont été blessés ce vendredi même par un véhicule piégé. Donc la troisième attaque qui s'est produite donc depuis fin décembre contre les militaires français qui ont déjà déploré 5 morts pendant la période. 5 morts donc et 6 blessés du côté de Barkhane. Et l'armée est aussi accusée par des villageois maliens d'avoir tué et blessé des civils lors d'un raid aérien le 3 janvier. Barkhane donc a indiqué ce vendredi s'être déplacée sur les lieux de la frappe, réaffirmant qu'elle n'avait touché que des terroristes, alors que des villageois ont rapporté que des victimes civiles donc, avaient eu lieu donc, au même moment dans le même secteur. Nos invités, donc, tout d'abord, notre géopoliticien Luc Michel, qui va nous dire un petit peu ce qu'il en pense de tout cela. Monsieur Michel.
Mon collègue Pierre Tabercodo, qui est un ami de longue date au Cameroun.
Bonjour, monsieur Luc Michel. Tout d'abord, je tiens à vous dire une excellente année à vous,
Hello.
Car on ne s'est pas encore vu depuis. Et alors, monsieur Luc Michel, qui se bat contre Barkhane ?
Le Mali, en fait, il est l'objet, c'est un théâtre d'opération d'un conflit qui est beaucoup plus vaste. Il y a tout d'abord le redéploiement de l'impérialisme français. Les Français sortent d'une année de brouille avec Washington et on sait que Biden, qui a choisi un francophone et un francophile qui est Blinken comme state secretary, va renouer avec Paris. Le directeur du renseignement de la DGSE était interviewé sur la chaîne française CI et il expliquait que les Français attendaient précisément à renouer, comme il disait, avec leurs partenaires américains. Il faut donc que la France, dans le cadre de ce redéploiement, soit en position de force face aux Américains, mais aussi face aux Russes qui viennent d'arriver dans le pré-carré français, qui viennent de remporter, non pas la guerre, mais une grande bataille en Centrafrique, et qui viennent d'arriver la semaine précédente au Mali. Il y a une délégation russe qui a rencontré le président Badao, officier russophone, formé en Union soviétique pour réaccélérer, comme en Centrafrique, la coopération militaire avec l'armée malienne et la coopération économique avec le Mali. À partir de ce moment-là, la France doit justifier de sa présence. Elle doit annoncer qu'elle verse le sang de ses soldats. C'est un peu une farce parce que c'est du théâtre. Les Français ont eu 8 ans, en 8 ans, 50 morts comparé avec les 190 000 morts de la présence américaine au Vietnam entre 1960 et 1968. Ça, c'était une vraie guerre. Barkhane, c'est du théâtre, de l'enfumage médiatique. Deuxièmement, donc, les Français doivent dire, nous versons le sang de nos soldats, nous avons des victoires, ils annoncent une série de victoires qui n'existent pas. Ça vous explique notamment la bavure qui vient d'avoir lieu, le bombardement de ces civils. Et troisièmement, c'est aussi cela qui doit être compris, c'est que les Français insistent lourdement sur le fait qu'ils financent Barkhane à hauteur d'un milliard d'euros par an. C'est dire aux Américains, voilà, M. Trump avait dit que nous sommes le shérif de l'Afrique parce que nous menons le combat et nous payons celui-ci. Eh bien, nous expliquons à M. Biden que nous sommes prêts à continuer le challenge. C'est cela qui se passe au Mali. Et le prétexte de l'ingérence de la lutte au terrorisme, c'est un prétexte à la domination occidentale.
D'accord, merci Monsieur Luc Michel. Donc, je vais maintenant appeler notre deuxième invité, donc Pierre Claver-Caudeau, éditorialiste et directeur de la publication Horizon Nouveau, magazine donc international paraissant à Douala depuis le Cameroun. Monsieur Caudeau, êtes-vous avec nous ?
Effectivement, je suis avec vous. Bonjour Monsieur, bonjour à Luc Michel et bonjour aux millions de téléspectateurs.
Alors, Monsieur Caudeau, on a vu que donc, cette semaine, il y avait eu une grosse bavure, mais c'est assez flou. La situation elle est assez floue. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais tout penche à se dire que voilà, il y avait une bavure. Est-ce qu'on pourrait dire que c'était la seule bavure ou alors ces dernières années, en tout cas depuis que Barkhane est présent, donc depuis que l'armée française plutôt est présente au Mali, est-ce qu'il y a souvent eu ce genre de bavure et quelles sont les conséquences en fait de cette bavure?
Oui, vous savez, il faudrait s'interroger sur la présence même de Barkhane au Mali, tout comme on devrait s'interroger sur la présence des sangaristes à RCA et ainsi de suite dans la plupart des pays, des anciennes colonies de la France où celle-ci n'est jamais véritablement partie depuis la proclamation des indépendances factices des années 1960. Ce qui se passe au Mali est simplement prémonitoire de cette ingérence de la France dans les affaires intérieures de l'Afrique. Sinon, on serait d'ailleurs tenté de se poser la question de savoir qu'est-ce que les forces françaises font au Mali. Et globalement, qu'est-ce que les forces françaises font en Afrique? Vous conviendrez avec moi que partout où stationnent les forces françaises, en Afrique, il y a une espèce de bordel sécuritaire qui s'y installe. Barkhane est bien installé au Mali, mais le Mali est un pays divisé par trois, donc les deux tiers sont contrôlés par des mouvements terroristes. Sangaré s'est installé en République centrafricaine, mais c'est pas pour autant que les mouvements rebelles ne prospèrent pas de ce côté-là. Vous irez pareillement dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Gabon un peu moins. D'une manière générale, je pense que les forces françaises installées en Afrique alimentent plutôt le terrorisme parce que, partant de ce que je viens d'évoquer, sur le plan sécuritaire de tous les pays où sont stationnées ces forces, vous êtes d'accord avec moi qu'aucun de ces pays ne connaît une paix, une véritable paix, ne connaît une situation sécuritaire véritable. Donc, pour vous dire un peu, pour revenir sur votre question, je crois qu'on aurait bien parlé, on parlera bien de bavure, on parlera de ceci, on parlera de cela, mais la question la plus importante aujourd'hui pour les forces armées africaines ou alors pour les pays africains, c'est de disposer de s'occuper de leurs problèmes de sécurité avec des partenaires de leur choix. On a vu le cas en Centrafrique où si jamais les forces la Russie n'avait pas pris en charge la sécurisation du processus électoral avec d'autres pays, avec le concours d'autres pays africains, ces élections, on assisterait aujourd'hui à une histoire de transition au sommet de l'État. Parce que pourquoi et qui aurait organisé tout ça? Mon cher, il faut quand même se poser une question fondamentale, celle de savoir comment est-ce que dans des pays dits pauvres, parce que toutes les anciennes colonies françaises sont pauvres, mais comment est-ce que dans des pays où les gens n'arrivent pas, la plupart des gens n'arrivent pas à souffrir trois repas en une journée, comment peuvent-ils se permettre de souffrir des armes qui coûtent plusieurs milliers de dollars américains? Vous comprenez que l'affaire, la question de la sécurité dans les pays, les anciens pays francophones et surtout des pays où sont stationnées les forces françaises, c'est une question fondamentale. Moi, je n'ai pas très vite en besoin, mais je crois que c'est la France qui, ces forces françaises installées dans le sud, dans les pays africains, c'est à travers ces forces françaises que les rébellions ont accès aux armes et aux munitions. Parce que, comme vous le savez, un conteneur estampillé force sangariste passera sans le moins de contrôle à la douane. Mais si le même conteneur se retrouve entre les mains des rebelles du MLC, donc du mouvement de libération du Cameroun, du côté de l'Est Cameroun, vous conviendrez avec moi qu'il y a toute une complicité, il y a toute une ingénierie que la diplomatie française et la politique française a déjà mise en place pour entretenir l'insécurité et le chaos afin de continuer à piller sans réserve et sans contrepartie les ressources naturelles de tous les pays africains qui ont eu la malchance de rencontrer la France sur le terrain, sur le chemin de leur histoire. Alors, la situation qui prévaut au Mali est une situation qui interpelle tout le monde, qui interpelle chaque Malien, qui interpelle chaque Africain, qui interpelle chaque acteur majeur de la géopolitique mondiale par rapport à l'urgence de voir le Mali se débarrasser ou alors de voir la France retirer purement et simplement ses forces armées installées dans les pays africains pour que les dirigeants de ces pays-là puissent plutôt établir une relation de confiance, non seulement avec leur peuple, mais également avec les grands politiques qu'on y trouve. Parce que c'est comme je ne cesse de le rappeler, chaque fois qu'il n'y a plus la parole sur un plateau, la prédation internationale s'alimente du chaos. Et la France est l'un des pays au monde les plus experts en matière de mise en place du chaos. Elle a une expérience incommensurable. Voilà. Donc, membre de l'Union européenne, elle est dans pratiquement le loup dominant de cet état de choses au sein de l'Union européenne et même de l'OTAN. Vous comprenez que si jamais on pouvait parvenir à éloigner la France des pays africains, des forces françaises des pays africains, il y a une certitude, ça j'en suis sûr, il y aura moins de chaos, il y aura moins de coups d'État, il y aura moins de rébellions, il y aura moins de mouvements terroristes, il y en aura pratiquement plus de djihadistes. Parce que le djihadisme, c'est une forme de rébellion. Dans la région du lac Tchad, on a Boko Haram qui utilise, je vous en prie, des armes de fabrication française. Comment font ces armes pour arriver dans les environs du lac Tchad, dans la forêt de l'est, dans les forêts de l'est, du nord-est du Nigeria? Ça, elles arrivent pourtant là. Elles sont parachutées par des avions. Elles arrivent par quelle voie? Donc, vous comprenez qu'il y a toute une ingénierie qui tourne autour du chaos permanent qui est entretenu en Afrique avec le concours de la France. Donc, il est question davantage pour les dirigeants africains de prendre la mesure, de s'inspirer de ce que nous avons depuis les indépendances et même avant, parce qu'on a quand même vécu le drame des luttes nationalistes en Afrique, dans certaines anciennes colonies françaises. Et à la suite de ça, il faut tirer des leçons et savoir qu'est-ce que l'on veut et savoir poser un autre regard dans les relations avec la France pour qu'enfin on puisse définitivement sortir de l'étau dans lequel la France nous enferme au détriment de notre développement, au détriment de la paix, au détriment de la démocratie et au détriment de notre liberté. Donc, vous voyez, c'est à mon
justement,
avis...
Justement, on va y revenir, Monsieur Caudeau. On va y revenir parce que j'aimerais bien que vous développiez un peu plus en fait ce sujet-là. Mais avant tout, j'ai une question à poser donc à Monsieur Luc Michel, s'il est toujours avec nous.
Oui, je vous écoute.
Alors, Luc Michel, vous avez parlé en fait d'une présence russe tout à l'heure dans votre analyse, et on se demande en fait donc est-ce que la Russie participerait en fait à ces un petit peu entre guillemets. À ces attaques contre donc Barkhane.
Ça, c'est de la géopolitique. La Russie est la suite dans le strict de la réalité internationale.
Luc Michel, attendez, parce que apparemment le réseau est très très mauvais. Je vais vous interrompre et je vais revenir à vous. En attendant, je vais poser donc ma question à Monsieur Caudeau. Monsieur Caudeau, est-ce que vous êtes toujours avec nous?
Toujours avec vous.
Alors, vous avez parlé en fait de tout à l'heure d'un système qui avait été mis en place donc par la France, aussi bien si on peut énumérer. Donc, vous avez parlé donc les pays pauvres qui étaient des anciennes colonies françaises, mais il y a le franc CFA qui vient au milieu, il y a la présence de militaires français qui sont là, et tout ceci est en train d'appauvrir en fait ces pays. Mais bon, d'après ce qu'on entend dans les médias donc occidentaux, c'est que premièrement, on voit qu'il n'y a pas vraiment une armée pour sécuriser le pays. Tout d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Et deuxièmement, où vont les ressources, en fait? Où vont les ressources naturelles? C'est quand même des pays riches.
Oui, merci. Ça, c'est des questions centrales, extrêmement importantes que vous venez de poser. Mais ces questions trouvent leur réponse dans les accords de coopération qui lient toutes les anciennes colonies françaises à l'ancienne puissance coloniale. Il s'agit bien des accords de coopération. Ces accords de coopération portent sur plusieurs domaines. On a le domaine militaire, on a le domaine diplomatique, on a le domaine de l'éducation, on a le domaine de la monnaie, on a le domaine même de l'éducation. Et ça vous surprendrait. Vous savez, 80% des manuels scolaires inscrits dans les programmes en Afrique francophone sont édités en France. Alors, vous imaginez bien quel peut être leur contenu. Et c'est d'ailleurs à travers ces manuels scolaires que la France arrive à orienter la pensée de toute l'élite africaine à partir du berceau, c'est-à-dire à partir de l'enseignement maternel. Il me souvient, étant tout petit, d'avoir étudié un livre qui s'appelait Mamadou et Binetta. Et par la suite, quand il fallait passer au cours élémentaire deuxième année, au cours moyen 1, il a changé de titre, il est devenu Mamadou et Binetta, et est devenu grand. Avec beaucoup de recul et le temps jouant à ma faveur, j'ai compris pourquoi est-ce que certaines personnes en Afrique francophone n'arrivent pas à réaliser les véritables enjeux, ou alors en tout cas la peur et le complexe vis-à-vis de la France, justement, parce que dans ces livres-là, on vous apprend à parler le bon français, on vous apprend à écrire le bon français, on vous apprend à compter en français. Mais ce qu'on ne vous apprend pas, c'est de vous libérer de votre esprit de colonisé. Parce que même les caricatures et les dessins qui s'y trouvent dévalorisent le noir. Vous comprenez? Donc, on est dans un système où la France a tout planifié à travers des accords de coopération. Et aujourd'hui, le contact, les ligues francophones, vous avez dû le constater, est beaucoup plus, pratique beaucoup plus du suivisme que l'élite anglophone, de la seule puissance coloniale que l'élite anglophone. Tout simplement parce que les deux modes de colonisation n'étaient pas identiques. Les anglophones faisaient l'indirect rule. C'est-à-dire, ils formaient une élite qui devait prendre en charge la gestion des affaires de leurs anciennes colonies pendant que la France pratiquait le direct rule. C'est-à-dire, elle formait une élite qui devait lui être soumise et continuer à pérenniser son système. C'est-à-dire le système que la France lui dictait en fonction de ses intérêts à elle. Donc, il y a déjà ça au niveau du système éducatif et de son influence sur le comportement et sur le devenir de l'élite francophone. Maintenant, vous avez parlé de la question de la monnaie. La question de la monnaie également intervient dans le cadre de ces différents accords de coopération où c'est clair que la monnaie est fabriquée en France, à Chamalières.
Oui.
Une monnaie, on ne sait pas. Et quelles réserves d'or qui garantissent cette monnaie
sont déposées
à la Banque centrale française. Vous comprenez?
Oui.
Ça suffit en fait que les pays de l'État francophone, qui aujourd'hui se servent de France et soi, n'ont pas de monnaie. Parce que, ne parlons même plus de souveraineté, ces pays n'ont aucune monnaie. C'est là une monnaie que la France peut décider d'augmenter le volume ou de réduire le volume de masse en circulation sur les places, sur le marché ou pas. Ça se dit que nous sommes en réalité assimilés à même pas à des départements, mais simplement à des vaches à lait. Et c'est donc tous ces facteurs conjugués, déjà sur le plan psychologique, parlant de l'éducation, sur le plan de la souveraineté monétaire, parlant de la monnaie, du franc CFA, tous ces facteurs se conjuguent pour que nous soyons pauvres en permanence et que nous vivons un terrorisme qui ne dit pas son nom. Parce que c'est une forme de terreur que la France a imposée aux États africains, aux populations des anciennes colonies, à travers les accords de coopération. Et cela, pour protéger tout ce... Vous voyez tout ça. La France a également passé des accords de coopération en matière de défense et de militaire. c'est la France qui était le, qui à travers ces accords est le principal fournisseur de l'armement, est le principal formateur, est le principal garant de la sécurité dans les dans ces anciennes colonies. Or, oui, les anciennes colonies françaises comptent le plus grand nombre de coups d'État dans le monde que toutes les autres colonies, que toutes les autres colonies. Vous n'allez pas démentir cela. Rien que la Centrafrique a connu plus d'une dizaine de coups d'État. Et il y a un coup d'État, nous venons d'échapper à un coup d'État il y a moins d'un mois en Centrafrique. Et c'est ça, ce coup d'État est effectivement l'œuvre de la France. On ne pourra pas personne ne peut me démentir, nous me conseiller sur ce sujet-là. Si les Russes n'avaient pas été en Centrafrique, je crois qu'on serait rentré dans une transition avec un fantoche que la France aurait placé au pouvoir de ce côté-là. Donc, vous comprenez que l'Afrique est plus dans un engrenage qui relève de sa relation historique avec la France. Un engrenage qui met en difficulté les États africains dans la mesure où ces États africains qui ont été d'anciennes colonies françaises continuent dans un système, dans une relation néocolonialiste avec la France, une relation qui les empêche de jouir de la moindre souveraineté, que ce soit sur le plan monétaire. Aucune souveraineté. Sur le plan militaire, aucune souveraineté. Sur le plan diplomatique, aucune souveraineté. Sur le plan sur le plan même de l'éducation. Et vous savez, nous sommes parlant de l'éducation. Nous sommes, chacun de nous est exactement à l'image de l'éducation qu'il a reçue, que ce soit à la maison ou à l'école. Alors, comment vous posez-vous la question de savoir comment est-ce que, on peut se poser la question de savoir comment est-ce que, on parle par exemple le cas des privatisations qui sont abattues sur les pays africains et qui ont pour objectif de faire même basse tout notre potentiel industriel de ressources naturelles. Comment pouvez-vous imaginer que tous ces accords sont défavorables aux pays africains? Pourtant, il y a des élites africaines qui, 30 ans après l'indépendance, étaient impliquées dans l'élaboration ou dans la gestion de ces accords. C'est justement parce que la France tient les luttes africaines à travers des programmes de formation au rabais. Donc, dans ces programmes, les Africains ne savent même pas pourquoi ils sont africains. Si vous demandez à 10 Africains en quoi est-ce que vous reconnaissez comme étant africain, je pense que s'il y en a 100, ils vont vous donner 100 réponses, justement parce qu'il manque cette fibre patriotique à l'élite africaine et à tous les Africains, excepté quelques pays de l'espace anglophone, où quand même le mal n'est pas aussi profond. Donc, il n'y a aucune surprise de voir les pays africains exposés à la pauvreté, exposés aux rébellions, parce que les rébellions sont les conséquences de la pauvreté. Mais vous dans le... Et les rébellions sont justement les conséquences de la pauvreté.
Évidemment, M. Poteau, c'est un cercle vicieux, mais je suis obligé de vous couper parce que nous avons rétabli le contact avec Luc Michel et j'aurais voulu qu'il s'exprime en fait sur la présence russe. Monsieur Luc Michel, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui,
il nous reste plus énormément de temps. Nous sommes désolés, on a eu des petits problèmes donc, de réseau. Donc je vais vous répéter en fait ma question. Donc est-ce que ces attaques seraient, entre guillemets, donc on va dire, lié à une certaine présence russe au Mali?
Ça existait du temps de l'Union soviétique, où la CIA et le KGB se menaient une guerre sans limite, mais ça s'est terminé aujourd'hui. La Russie, elle agit conformément aux lois internationales dans le cadre des dispositions des Nations Unies, en particulier dans le cadre d'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Lorsque les Russes ont réarmé les FATCA, ont amené des conseillers militaires en Centrafrique, c'est avec une décision du Conseil de sécurité, et il va en être de la même chose pour le Mali. Les Russes ont pris un peu les Occidentaux à leur piège, ils parlent de communauté internationale, ils parlent de loi internationale, les Russes ont dit, eh bien, comme on dit les enfants en France, ils ont dit « chiche ». Voilà ce qui se passe. Il n'y a donc pas d'intervention russe, de manipulation des groupes terroristes, etc. Mais cette manipulation, elle existe du côté des Occidentaux. Qu'est-ce que c'est la guerre au terrorisme occidental, américain et française, en particulier la guerre du Sahel? C'est qu'un continuel jeu où d'un côté on attaque les djihadistes, mais de l'autre côté on leur permet de se redéployer, de monter en puissance, en particulier au Mali. C'est ce qui se passe dans le nord du Mali, à Gao ou à Kidal. Il y a un jeu de chaises musicales entre l'armée malienne, les djihadistes d'immodérés et, bien entendu, les groupes sécessionnistes touareg. C'est cela le jeu de Paris. Ça vous explique d'ailleurs le coup d'État qu'il y a eu. La première déclaration des militaires, qui n'était pas du tout pro-français, c'est d'avoir déclaré « Nous ne supportons plus de combattre pour l'intégrité nationale alors qu'on organise la sécession du pays. Nous ne supportons plus que nos camarades, nos soldats, nos officiers meurent pour rien dans une guerre alors qu'il n'y a même pas de pension pour assurer une vie décente à leurs veuves et à leurs enfants. » C'est cela donc qu'il faut comprendre, c'est que la Russie, c'est le respect de la souveraineté des États, le respect de la loi internationale, le respect de la loi de l'ONU, c'est tout l'investissement.
Je suis obligé de vous couper, car on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous deux donc d'avoir participé à ce débat. Je vous souhaite, quant à vous, une excellente soirée à toutes et à tous, et à la prochaine.
Des merveilles. L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parle ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire. Le complexe palatin de Persépolis est l'un des plus célèbres de l'Antiquité. Depuis de nombreuses années, il a été l'objet de fouilles archéologiques et malgré de nombreuses études approfondies, le site conserve encore un grand nombre de mystères et d'énigmes. Il y a plus de 2000 ans, Persépolis était la capitale sacrée et rituelle de l'Empire achéménide, l'une des plus anciennes puissances du monde. Symbole de la grandeur et la splendeur de l'Empire, Persépolis est également devenu celui de sa chute. Il témoigne également d'un tournant dans l'histoire de la guerre entre l'Occident et l'Orient, tournant attesté et vécu pendant les campagnes militaires d'Alexandre III de Macédoine, dit Alexandre le Grand. De nos jours, Persépolis contient la valeur spirituelle d'un sanctuaire zoroastrien. Au fil des siècles, les Iraniens ont inventé des légendes autour de son mystère, pour finir par le nommer Tahte Jamshid, qui signifie le trône de Jamshid, souverain mythique de l'Iran. Le complexe de Persépolis a été construit entre 520 et 450 avant Jésus-Christ, pendant les règnes de trois générations de rois achéménides. Sa construction a débuté sous Darius Ier, qui a gouverné la Perse de 522 à 486 avant Jésus-Christ. Il est le fils de Hystaspès, l'achéménide, à ne pas confondre avec Hystaspès cité dans l'Avesta, le roi légendaire de Bactre, contemporain de Zoroastre et l'un de ses premiers prophètes. En construisant Persépolis, Darius voulait atteindre l'immortalité. Et on peut dire qu'il y a, dans un sens réussi, malgré la chute de l'Empire achéménide, tombé sous le coup des Macédoniens.
les ruines de cette ville, ses colonnes et ses bas-reliefs qui s'étendent sur des centaines de mètres, les inscriptions gravées sur les monuments, survivant aux millénaires, nous racontent la vie, les croyances et la culture spirituelle et matérielle de l'époque. Les rois achéménides se déclaraient ariens. Et dans une de ses inscriptions rupestres, Darius Ier annonce fièrement qu'il est un Perse de descendance arienne. Le peuple arien s'est vraisemblablement installé sur le plateau iranien il y a environ 4000 ans. Leur territoire précédent se situait entre le fleuve de Dnieper et les montagnes de l'Oural, traversant la Moudaria, anciennement Oxus, qui les ont quittés pour s'installer sur les vastes territoires qui sont actuellement ceux de l'Iran et de l'Afghanistan. Plus tard, une branche de ce peuple a quitté le plateau iranien pour l'Inde. Le mot Iran signifie « la terre des Ariens, noble ou libre », bien que ce nom n'apparaisse sur les documents officiels qu'à partir de l'Empire achéménide. Les Ariens menaient une vie de pasteurs nomades. L'Avesta, compilation d'hymnes anciens et de textes en prose, fournit des savoirs de base sur la culture et la religion de cet ancien peuple, précisant qu'il est originaire du nord sur le plateau iranien et qu'il a étendu son territoire jusqu'au bord des plaines de la Mésopotamie. Une inscription datant d'environ 1370 avant Jésus-Christ contient les noms des dieux ariens. Avec le temps, les Ariens se sont unis avec d'autres peuples du plateau iranien pour former de nouvelles nations telles que celle des Mèdes, signifiant « furieux dans la bataille » et les Perses signifient « grand héros ». Le nombre des peuples de culture arienne a donc suffisamment augmenté pour qu'ils puissent imposer leur volonté aux populations avoisinantes, menaçant les puissances assyriennes et babyloniennes. La zone où l'on construit plus tard Persépolis s'appelait alors Anshan, qui a longtemps été l'un des principaux centres de la civilisation élamite, ainsi que, à certaines périodes de son histoire, un puissant royaume indépendant. En 690 avant Jésus-Christ, les Perses s'allient avec les Élamites pour se battre contre la Syrie et Anshan passe progressivement sous leur contrôle, devenant peu à peu une ville perse, bien qu'elle conserve son ancien nom sacré. En 609 avant Jésus-Christ, alors que l'Empire assyrien est tombé sous les coups des Mèdes et des Babyloniens, Élam devient dépendante de Babylone comme la Perse qui sera conquise par le roi Mède Siarzar. À cette époque, 640-600 avant Jésus-Christ, Cyrus Ier, Kourosh, qui signifie « celui qui ressemble au soleil », appartenant à la famille royale des Achéménides, régnait sur la Perse. Son grand-père, fondateur de la dynastie, était le roi des Perses, 700-675 avant Jésus-Christ, et avait un palais résidentiel tout près des montagnes Bakhtiari. Le nom moderne du monument était Masjid Soleiman. En 550 avant Jésus-Christ, les tribus perses dirigées par Cyrus II, dit Cyrus le Grand, petit-fils de Cyrus Ier, se révoltent contre le roi Mède Astyage et s'emparent de son pouvoir. Par la suite, une série de conquêtes et de succès militaires permettent à Cyrus II de créer un immense empire allant de l'Égypte à l'Asie centrale et à la vallée de l'Indus. Ainsi commence l'histoire de l'une des plus grandes puissances de l'Antiquité. Si la capitale de Cyrus II est la ville d'Ecbatane, la capitale des Mèdes qu'il a vaincue, il construit également une résidence royale à Pasargad, au cœur de la Perse proprement dite, ce qui fait de Pasargad la première grande ville construite par les Achéménides. Cyrus est généralement considéré comme la figure la plus importante parmi les 15 souverains achéménides. Il réussit à unifier Perse et Mède pour fonder une grande nation, assurant la paix et la sécurité pour ses sujets, iraniens ou non, et leur permettant de restaurer les temples de leurs dieux. Les peuples conquis sont bien traités et ces Russes respectent leurs coutumes et croyances religieuses. Il établit des satrapies permettant ainsi aux responsables locaux de diriger chaque pays. Il décrète également que les rois perses reconnaîtront les rites de tous ces peuples. Ne violant jamais le mode de vie des peuples conquis, les Achéménites autorisent à chacun de vivre à sa manière. Zoroastriens, ils estimaient que leur mission principale était d'établir l'ordre dans le monde. Cette politique libérale s'oppose diamétralement à celle des dirigeants assyriens et babyloniens qui avaient l'habitude de réduire en esclavage les peuples conquis et de raser intégralement des villes florissantes à des buts punitifs ou dissuasifs. Ce respect des peuples permit à l'armée perse, accueillie en libératrice, de prendre Babylone sans combat. En 530 avant Jésus-Christ, Cyrus est tué lors d'une bataille et enterré dans un tombeau érigé à Pasargad. Avec le court règne de son fils Cambyse II, 530-522 avant Jésus-Christ, portant le titre de conquérant d'Égypte, l'Empire est à l'apogée de sa puissance. Pourtant, bientôt, la Perse connaîtra un soulèvement populaire, précisément en 522 avant Jésus-Christ, sous l'égide de Gaumata le Mage. Ensuite, une série de péripéties mène au couronnement de Darius Ier, auquel on attribue la construction de Persépolis. La prochaine fois, nous parlerons de la construction de ce complexe palatin de Persépolis.
Thank you.